Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la Demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité.
C'est un duel à plusieurs centaines de kilomètres heure qui se joue sur piste mais aussi sur les plateformes de streaming. Ce vendredi 11 mars, Netflix enclenche la première avec la saison 4 de Formula 1, Pilote de leur destin, plus connu sous le nom anglais de Formula 1, Drive to Survive. Quelques jours plus tard, le lundi 14 mars, c'est Amazon Prime Video qui passe la seconde avec MotoGP Unlimited. Qui sortira vainqueur de ce duel ? C'est le sujet de ce nouvel épisode d'À la Demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming. Je suis Thomas Robert et je serai le pilote de cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné par des passionnés de course. Stéphanie Fuseau, que je ne présente plus parce que c'est une habituée de ce rendez-vous. Raphaël Émile et Maxime Carignano. Bonjour à tous les trois.
Salut. Bonjour.
En fin d'émission, c'est le DJ Kungs qui nous parlera de son amour pour Formula One. Visiblement, il a choisi son camp. Alors pour commencer, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 4 de Formula One ?
C'est une saison que j'ai trouvé quand même meilleure que la saison 3. On l'attendait beaucoup parce que la saison de Formule 1 l'an dernier a été juste exceptionnelle, avec un scénario déjà presque plus fort que les saisons précédentes de Drive to Survive. Donc il y avait une vraie curiosité de voir comment ça allait être retranscrit à l'écran. Je suis partagé sur certains épisodes. Je trouve notamment que c'est normal parce que forcément la rivalité Hamilton Verstappen et la rivalité du coup Mercedes Red Bull, il fallait la montrer. Après, il y a 4 épisodes quasiment consacrés qu'à ça. Le fait que Verstappen ne parle pas fait qu'on voit beaucoup Christian Horner, le patron de Red Bull, qui est quand même pas la personne la plus sympathique au monde. Donc voilà, je trouve qu'on passe beaucoup de temps dessus, et quand on a suivi la saison, toutes ces images là on les a un peu vues, et j'ai préféré finalement les autres épisodes, ceux consacrés à Daniel Ricciardo, à Haas, à Williams, à Esteban Ocon. Mais parfois, ils étaient justement un peu trop courts. Je pense que l'épisode sur Esteban Ocon, en tant que Français, on avait envie de voir vraiment sa victoire. Et le fait de faire une rivalité, construire une pseudo-rivalité avec Yuki Tsunoda, qui n'avait aucun sens, alors qu'il y en a un qui démarrait sa carrière, l'autre qui est quand même plus affirmé depuis longtemps. Voilà, il y a des raccourcis de scénario qui n'avaient pas grand sens à mon avis. Voilà, après, le problème de base de Drive to Survive, c'est que ça veut à la fois s'adresser à ceux qui ne regardent pas la Formule 1. Du coup, on a droit aux commentaires de Will Buxton qui te raconte que celui qui est en pole position part en première place. Oui, ça, d'accord. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en a un peu marre de ces poncifs-là. Mais c'est important, effectivement, pour le grand public. C'est du coup important pour le grand public de raconter toute la rivalité Hamilton-Verstappen, parce que si t'as pas suivi la saison, effectivement, c'est le truc le plus important. Quand t'es un peu plus spécialiste, c'est vrai que t'as envie de voir des choses que t'as pas forcément vues. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai préféré les épisodes consacrés aux petites écuries ou aux petites rivalités qu'on voit pas forcément lorsqu'on suit la saison tout au long de l'année.
Alors, déjà, je tenais à dire à Raph, quand même, Christian Horner, très intéressant comme personnage. Et justement, je trouve qu'il apporte beaucoup à la série et il a des punchlines qui sont super, quoi. Donc, c'est presque un acteur, il joue le jeu à fond. Et je trouve que c'est un des plus carrément de cette série. Pour les plus et les moins de cette saison, moi, je suis pas complètement de ton avis. Je trouve que la saison 3 était mieux que celle-là. J'en attendais beaucoup, exactement, par rapport à la saison de F1. Donc, je suis un petit peu restée sur ma faim par rapport à des choses. Et comme tu disais, je pense que la série, elle est trop destinée à des gens qui aiment pas forcément la F1. Donc, il y a très peu de périodes de course, il y a très peu de choses techniques qu'on t'apprend sur le règlement, sur les pneus, des choses où tu aurais l'occasion, en fait, d'apprendre plein de choses quand ça t'intéresse. Et là, finalement, ça reste un peu en surface. Et les pilotes aussi, je suis un peu frustrée. Je pensais qu'on irait un peu plus en profondeur au fil des saisons. La première saison, OK, ça reste un peu en surface. Tu vois un petit peu les pilotes, un petit peu leurs relations. Ça reste vraiment en surface, donc on les connaît pas bien. J'aimerais bien qu'on les voit plus aussi à part, qu'on sache un petit peu plus leur style de pilotage, ce qu'ils aiment, etc., qu'ils se livrent un peu plus. Ils jouent le jeu, mais c'est un peu show-off, quoi. Voilà, je fais ma série, le pilote de F1, et t'as l'impression que ça gratte pas derrière. Voilà, et sinon, j'aime bien, moi aussi, les interventions des journalistes spécialistes de F1. Je trouve qu'ils sont bien et qu'ils disent des trucs intéressants. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et voilà. Et puis, si, je voulais dire que je déteste Daniel Ricciardo.
C'est gratuit, là.
Non, c'est argumenté.
Ah, on en reparle. Et toi, Maxime ?
Malheureusement, cette année, j'ai été un peu déçu par la saison 4, avec un bilan un peu mitigé. Je trouve que les épisodes sont un peu lents. Les pilotes et les écuries ont, selon moi, pas assez joué le jeu. On voit très peu Max Verstappen, Lewis Hamilton, ils font très peu d'interviews. On devait avoir les coulisses de la Formule 1, et finalement, on n'a quasiment rien eu. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. En revanche, à la fin de la saison, on a un magnifique duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Pour le coup, ça a été très bien réalisé par Netflix. C'est très intéressant, avec des moments de course, avec le duel entre Christian Horner, donc patron de Red Bull, et Toto Wolff, patron de Mercedes. Et pour le coup, ce duel entre les deux grands patrons, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai adoré. On a accès à leur vie privée, donc on voit un peu des moments avec leur famille, leur quotidien. On voit notamment la femme de Christian Horner, Gary Halliwell, qui réagit à plusieurs reprises tout au long de la saison. Et vraiment, j'ai adoré. En revanche, ça manque un peu de sincérité. Et il y a un autre point qui m'a marqué dans cette saison, c'est le découpage des épisodes. Selon moi, il est un peu étrange. Parfois, il y a des répétitions entre les épisodes. J'ai trouvé ça un peu gênant. Et pour certains épisodes, pour être tout à fait honnête, j'avais envie de regarder en accéléré. C'était si lent que j'avais envie de passer à autre chose. Mais globalement, cette quatrième saison, elle est quand même sympathique, c'est quand même divertissant. Un manque de profondeur, mais pour un championnat explosif avec un duel extraordinaire qu'on n'avait pas vu depuis des années, j'aurais aimé avoir davantage.
Merci Maxime. On va un peu développer. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre moment préféré dans cette saison 4?
Alors moi, mon moment préféré, c'est l'écurie Haas avec Nikita Mazepin. Donc, faut savoir que pendant toute la saison, le jeune pilote russe se fait recadrer par son équipe pour ses mauvais résultats, et on le voit vraiment dans la saison, on le ressent. Et y a un épisode justement où son père, qui est le patron de l'entreprise Uralkali, qui est le sponsor de l'écurie Haas, faire du chantage à l'écurie Haas. Et ça, pour le coup, ça m'a marqué pendant cette saison. Donc, il estime que son fils est un peu désavantagé par rapport à Mick Schumacher. Du coup, il demande à l'écurie de trouver une solution en urgence et les menace en retirant son financement et tout son argent. Alors, du coup, ça crée beaucoup de problématiques et un moment un peu particulier dans la saison. Et vraiment, c'est mon gros coup de cœur de la série. Voilà.
Alors, moi, c'est pas vraiment un moment, c'est un pilote. C'est Max Verstappen. Parce qu'il a donc refusé, tu disais qu'on le voyait pas beaucoup, en fait il a refusé cette saison de se prêter au jeu, justement parce que il trouve que cette émission, cette série doc, c'est plutôt du show et que ça construit des fausses rivalités. Bon, alors fausses rivalités, là je pense que il exagère, mais ce que je trouve vachement bien, c'est que en fait même sans les interviews, il est super présent. Il est super présent, il a du charisme, et comme tu sens, comme t'as vu la saison, tu vois arriver les derniers épisodes, t'attends ça, t'attends la montée en pression, t'attends le duel, etc. Et tu sais que ça va être dramatique, etc. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu portée par rapport à un ventre mou un peu de la série, où j'étais un peu moins dedans. Donc, je trouve ça fort, en fait, de s'en parler. D'être quand même un des éléments les plus importants de tous ces épisodes-là.
Et ben moi, ça va te faire plaisir, Stéphanie. Je vais parler de Daniel Ricciardo, puisque Maxime m'a gentiment pris mon coup de cœur sur Haas. non, juste sur Haas, quand même, je pense que ça va vraiment faire parler, parce que quand vous le regardez dans le contexte d'aujourd'hui, de la guerre, du fait que dans la future saison, du coup, Nikita Mazepin a été viré par son écurie, que le sponsor s'est retiré. Voilà, ça prend encore plus une dimension politique et tout qui est assez forte. Donc pour moi, c'est quand même, ça reste l'épisode coup de cœur. Mais pour contredire Stéphanie, j'ai envie de parler de Daniel Ricciardo. Pour ceux qui ont regardé toutes les saisons, Daniel Ricciardo, c'est vraiment l'amuseur public. C'est le pilote le plus sympathique du paddock. Il s'est vraiment devenu un peu un personnage et un peu une des stars vraiment du programme. Et du coup, ils lui ont consacré quasiment 2 épisodes, ce qui est quand même fort sur 10. L'enfer pour certains. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dedans, c'est que justement, on a vu Ricciardo, donc, qui a quitté Renault la saison dernière pour rejoindre McLaren avec de fortes ambitions. Et il arrive et il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et du coup, le mec tout le temps joyeux, le mec qui faisait rire, qui faisait des blagues, machin, on le voit dans une phase où on comprend qu'il commence à tomber dans une sorte de dépression. Et c'est un sujet qui est souvent tabou dans le sport parce que, ben, voilà, le grand public va considérer qu'un sportif qui gagne des millions n'a pas le droit de déprimer, n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est un sujet qui est de moins en moins tabou et je trouve ça assez fort. Et voilà, c'est très bien illustré avec Ricciardo parce que justement, on connaît son côté amuseur. Là, on voit son côté en galère. Et si vous avez suivi la saison, vous savez que ça s'arrange à un moment parce qu'il gagne un Grand Prix. Et voilà, on suit tout ce parcours-là sur les 2 épisodes. Et je trouve justement, tu parlais Stéphanie tout à l'heure du fait qu'on voyait pas forcément assez en profondeur les pilotes. Lui, pour le coup, on le suit bien. Alors après, ça peut créer un déséquilibre parce que du coup, lui, on le voit pendant des épisodes alors qu'il y a des gens qu'on voit pas du tout. Par exemple, Pierre Gasly, en tant que Français, on aurait peut-être aimé le voir un peu plus, qui fait quand même une super saison, même s'il gagne pas de Grand Prix cette année. Mais voilà, je trouvais très intéressant. Et on va en reparler après pour le MotoGP Unlimited. Mais c'est également une thématique qui est abordée avec le pilote espagnol Maverick Viñales. Et voilà, je trouve ça très bien et je trouve que c'est vraiment différent. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur aussi.
Merci Raphaël pour cette magnifique transition. Donc après avoir parlé voiture, nous allons parler moto avec MotoGP Unlimited. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que vous avez aimé?
Alors clairement, MotoGP Unlimited, c'est la riposte de Prime Video à Netflix qui voulait son Drive to Survive. Et quoi de mieux que la moto qui est pas un concurrent direct, mais qui est clairement sur le même créneau de course spectaculaire pour se lancer. Clairement le pari réussi. Voilà, c'est dense, il y a énormément de choses et comme c'est une première saison, bah aussi on apprend un peu à découvrir plein de personnages. Est-ce que c'est autant destiné au grand public que Drive to Survive? Je suis pas sûr parce qu'il faut quand même s'accrocher pour retenir tous les noms, pour comprendre tout ça. Ça se veut quand même un peu pédagogique. Il y a quand même des repères qui permettent de comprendre un peu qui est qui. Après voilà, je trouve que c'est ultra complet. Ça essaie d'être le plus exhaustif possible. Dans le montage, je suis d'accord avec Maxime Tellers, Drive to Survive, des fois, on comprend pas la logique. Là, c'est circuit par circuit, donc au moins, on sait où on va. Et la saison a été tellement riche en MotoGP, avec un champion du monde français, quand même, Fabio Quartararo, avec le retour de Marc Marquez, qui avait raté quasiment toute la saison dernière à cause d'une blessure, mais qui a quand même déjà gagné 8 championnats du monde, donc voilà, le fait de le revoir et de le revoir gagner, c'est assez émouvant. La dernière saison de Valentino Rossi, juste la légende de la moto. Voilà, il y a plein d'autres histoires, plein d'autres choses, c'est vraiment ultra dense, c'est très bien raconté. C'est un peu moins spectaculaire que Drive to Survive, alors que la moto est tout autant spectaculaire. Voilà, la réalisation est peut-être un peu moins, ça veut moins scénariser des choses, donc peut-être un peu plus compliqué pour le grand public, mais en tant que quand on aime la MotoGP, par contre, c'est canon, il faut absolument regarder.
Est-ce que vous êtes du même avis, Stéphanie et Maxime?
Oui, je suis du même avis. Je trouve ça très bien. Moi, déjà, je suis très contente que on donne de la visibilité aux pilotes de moto parce qu'ils sont sous-estimés depuis des années. C'est un sport aussi dangereux, aussi spectaculaire que la Formule 1 et finalement, ils passent toujours derrière parce qu'il y a moins d'argent, en fait, simplement dans ce milieu-là. La série, elle est très bien faite. Il y a vraiment un regard journalistique un peu sur cette série-là. Donc, moi, je pense que c'est accessible à tous, en fait, parce que c'est très pédagogique, comme tu disais, Raph. Donc, même si on n'aime pas la moto, On va découvrir un univers, alors on accroche ou pas, mais on va découvrir un univers. Et surtout, ce que j'ai retenu, moi, de ça, c'est que ces pilotes qui risquent leur vie quand même sont d'une humilité et ce sont de vrais athlètes, quoi. On a l'impression que bon, ils font leur course le week-end et que la semaine c'est tranquille, et pas du tout. Donc il y a un côté très chaleureux, très simple, très accessible pour le coup, qui fait que tout le monde peut regarder. Après, effectivement, pour le côté technique, faut s'accrocher, mais c'est hyper intéressant et hyper bien expliqué, donc ça vaut vraiment le coup de regarder.
Je suis entièrement d'accord avec vous deux. C'est pédagogique, journalistique, c'est très bien réalisé. Et j'ai même allé plus loin par rapport à la série Formule 1 Drive to Survive. Je trouve que c'est mieux réalisé, il y a beaucoup plus de sincérité. Et moi, ce qui m'a marqué, mais vraiment, c'est que tous les pilotes ont joué le jeu. Mais vraiment, quasiment tous. Ils ont quasiment tous réagi tout au long de la série. Et moi, j'avais le sentiment d'être totalement accompagné. Donc on a le droit à des portraits, aux images de l'enfance des pilotes, aux coulisses, mais on a aussi accès, comme le disait Raphaël, aux doutes, à la nervosité des pilotes, et donc on les voit notamment souffrir avec leurs blessures, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors bon, c'est pas non plus une télé-réalité, on les voit faire à manger, faire du sport, s'entraîner. On a vraiment accès à leur vie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et on voit aussi un autre truc, des moments émouvants, avec notamment la mort de plusieurs pilotes. Et donc, c'est vraiment une série très, très dense.
Comme pour Formula One, est-ce que vous pouvez nous dire votre moment préféré de cette première saison ?
Mon moment préféré, c'est vraiment quand le Français Fabio Quartararo devient champion du monde. J'ai trouvé ça hyper émouvant, très bien réalisé. J'ai presque versé ma petite larme. Le moment avec sa famille, toute la tension qui retombe en coulisses, la façon dont ça s'est fait, très bien réalisé. On sent que c'est un sportif qui a pris beaucoup de risques tout au long de sa vie, tout au long de sa jeunesse. Et franchement, j'ai trouvé ça incroyable.
Alors moi, ce que j'ai préféré, ça peut sembler un moment anecdotique, mais c'est Fabio aussi, mais quand il dîne avec sa petite amie au restaurant. Et je trouve que ça représente un petit peu une grosse partie de MotoGP, de cette série, c'est que on a vraiment accès, comme tu disais, Maxime, à leur personnalité, à leurs doutes, à leur fragilité. Tu sens qu'ils sont plus authentiques que les pilotes de F1 qui, eux, ont une espèce de carapace et veulent toujours montrer qu'ils sont un peu les rois du monde. Et là, cette petite séquence, il a accepté de la faire alors qu'il voulait pas être suivi par les caméras, qu'il aurait préféré ne pas le faire, il savait pas quoi dire, il était tout mal à l'aise. J'ai trouvé ça hyper touchant. Et c'est un peu aussi le cas de tous ces pilotes qu'on connaît pas, qui sont pas des stars alors qu'ils ont des palmarès incroyables, qui risquent leur vie, quand on regarde ce sport, c'est hyper spectaculaire quand même. Donc et tu sens qu'ils ont une humilité qu'il y a pas dans d'autres sports, et ça m'a vachement touchée.
Alors, je vais parler un peu de Fabio Quartararo, mais dans un contexte plus global. Ce que j'ai trouvé très intéressant, notamment, c'est toute la partie sur la sécurité. On le disait, c'est un sport spectaculaire, mais c'est un sport encore plus dangereux que la Formule 1. Les chutes qui se prennent et tout, c'est quand même d'une violence. Et il y a plusieurs moments qui m'ont marqué. La mort de Jason Dupasquier, qui est un jeune pilote suisse dans une catégorie inférieure, qui est en Moto 3, mais qui a eu lieu quelques heures du coup avant le départ d'un Grand Prix de MotoGP. Ils ont fait une minute de silence à ce moment-là, et ils ont décidé après qu'ils ne feraient plus de minute de silence avant le départ d'un Grand Prix, parce que en termes d'émotion, c'était pour les pilotes qui ensuite allaient risquer eux-mêmes leur vie, c'était beaucoup trop fort. Et voilà, c'est un exemple déjà d'un truc assez incroyable. Fabio Quartararo, c'est un autre moment assez dingue de la saison, où il a un problème avec sa combinaison qui s'ouvre et il finit le Grand Prix à moitié torse nu. Imaginez juste s'il était tombé, ce qui se serait passé. C'est juste dingue. Sauf qu'il n'y avait pas de règlement à ce moment-là prévu vraiment pour ça. Alors ils l'ont un peu sanctionné, ils ont mis quelques secondes à la fin de pénalité. Mais du coup, ils ont créé une nouvelle règle pour dire ça, c'est fini. Parce que, ben ouais, le risque, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que derrière, on entend Quartararo qui dit « Si c'est à refaire, je le referai ». Ces mecs-là sont juste voilà, pris d'un truc, d'une envie. Lui, il jouait le titre et il se dit « Ben, tant pis, je risque ma vie et j'y vais ». Et ouais, c'est une force. Et ça ne faut que forcer le respect. Et puis, le dernier exemple, j'en parlais rapidement tout à l'heure, Maverick Vinales. Une saison très compliquée, donc c'était le coéquipier de Fabio Quartararo chez Yamaha. Pendant que son coéquipier, lui, cartonnait et visait le titre, lui, il enchaînait les catastrophes. Tombe dans une sorte de déprime, dépression, on sait pas trop. Il quitte son écurie, il va dans une autre, ce qui est très rare en cours de saison quand même. Et à peine installé dans sa nouvelle écurie, il perd son cousin, âgé de 15 ans, victime d'un accident de course. Ce qui a créé là aussi une nouvelle règle de dire ben en fait à 15 ans non, on fera pas de course de moto, c'est trop dangereux. Voilà, c'est les accidents qui créent les règles et j'ai trouvé ça très intéressant la manière dont c'était raconté. Et ça se voit pas forcément à l'image que c'est un sport plus spectaculaire que la Formule 1, mais vraiment que ce soit en termes de course où il y a du suspense à tous les étages, où il y a un nombre de gagnants impressionnant, que ce soit en termes de risque, que ce soit en termes de tout, la MotoGP c'est vraiment un sport incroyable. Et pour ceux qui, du coup, sont fans, on ne peut que conseiller de regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah c'est une belle porte d'entrée quand même. Ça va vous apprendre plein de choses et peut-être ça vous donnera envie de regarder la saison qui vient de démarrer le week-end dernier, qui s'annonce déjà dingue. Donc voilà, un vrai coup de cœur. Et bon, je pense qu'on est tous d'accord quand même pour dire qu'il faut regarder les deux.
Oui. C'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que la Formula One, je trouve que tu regardes pour du fun. Voilà, tu t'éclates, tu regardes le truc. Et Moto Grand Prix, ben t'es un peu plus immergé dans.
S'il y avait qu'un vainqueur.
Ah non.
Moi j'ai une petite préférence pour la MotoGP quand même. Là c'est.
Sans développer. Donc MotoGP.
Ouais je pense.
Ouais, on va dire la nouveauté MotoGP aussi.
Ouais, c'est dur mais j'aime trop la F1.
Petit aparté pour avant de te laisser. Reprendre les commandes de cette émission, Thomas. Non, juste pour rappeler que donc il y aura une saison 5 de Drive to Survive en Formule 1. Donc voilà, a priori toujours sans Max Verstappen qui ne voudra pas parler, mais cette saison avec un nouveau règlement et tout s'annonce assez dingue. Donc voilà, on a quand même hâte déjà de voir cette saison 5 l'année prochaine. A priori, il y aura une saison 2 de MotoGP aussi, il n'y a pas de raison. Et surtout, c'est vraiment un secteur que beaucoup veulent creuser, puisque Netflix va faire la même chose avec du golf. Bon, là, c'est peut-être pas gagné pour que ce soit grand public quand même. Et avec du tennis, et avec tout ce qui s'est passé avec Djokovic à l'Open d'Australie, machin, je pense que déjà, ça va être une série qui va être absolument dingue.
On reste dans l'ambiance avec la carte blanche de la semaine. Le Didier Kungs évoque avec nous sa passion pour Formula One. En voilà un qui sera donc devant son écran pour la nouvelle saison ce vendredi 11 mars.
S'il y a un programme récemment qui m'a vraiment marqué, c'est le documentaire Netflix sur les pilotes de Formule 1. Mmh. Je trouvais ça incroyable. Ça s'appelle Formula One Drive to Survive. Et ça montre à quel point les sportifs de haut niveau sont des personnes déterminées, prête à tout pour atteindre leur objectif. Et je trouve qu'il y a vraiment une corrélation avec le monde de la musique et le monde artistique. C'est un monde où il y a énormément de concurrence, la compétition est rude. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les sportifs qui ont un mental à toute épreuve. Et vraiment, on le voit dans ce documentaire que c'est très, très dur. Donc ouais, là-dessus, j'ai pris une grosse claque, ouais.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'À la Demande consacré à ces deux séries documentaires qui vont faire du bruit. Merci Stéphanie, Raphaël et Maxime pour vos avis tranchés.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci également à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la Demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.